un exercice qui est vraiment très efficace pour faciliter l'apprentissage. Et d'ailleurs, il y a un nombre impressionnant d'études qui le démontrent, hein, qui démontrent l'efficacité de l'entraînement à la récupération en mémoire. Et c'est ce qui fait de ce principe l'un des plus solidement appuyés par la recherche.
Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs des écoles, les éducateurs Montessori et toutes les personnes intéressées par la pédagogie Montessori et la neuroéducation. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant et chaque adulte développe son plein potentiel. En plus de mes ateliers Montessori le mercredi, je forme des professeurs des écoles de maternelle à la pédagogie Montessori et les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour apprendre à apprendre. Et bonne nouvelle, pour ma formation en ligne Impact, donc Impact c'est immersion Montessori pour des adultes et des classes transformées, vous allez pouvoir faire financer votre formation. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. J'ai aussi la chance de travailler avec ERA Montessori, et donc si votre projet est de devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation-era-montessori.com. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis et vos collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5€ par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode.
Dans cet épisode, je vais vous parler d'une stratégie très efficace pour apprendre qui s'appelle la récupération en mémoire, ou en anglais « retrieval practice ». Donc, dans cet épisode, je vais répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la récupération en mémoire ? Pourquoi faut-il entraîner la récupération en mémoire ? Et comment mettre en application ce principe ? Je vais aussi vous le faire mettre en application directement à la fin du podcast. Et je vais vous parler de ce principe, de la place de ce principe dans ma formation Impact et dans mon programme Apprendre à apprendre. Alors, j'ai choisi de vous parler de ce sujet car l'apprentissage est omniprésent à toutes les étapes de la vie. De la naissance à la mort, nous apprenons sans cesse. Donc cet épisode vous sera utile en tant qu'adulte, bon sauf si vous n'avez plus envie d'évoluer dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, mais ça serait dommage. Et il vous sera utile aussi pour vos enfants ou les enfants que vous accompagnez. Donc pour le créer cet épisode, pour le concevoir, je m'appuie sur 2 ressources de grande qualité. Le livre de Steve Masson, donc qui s'appelle « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner ». Et je m'appuie également sur les notes que j'ai prises en écoutant un podcast en anglais. J'ai écouté beaucoup d'épisodes, mais le nom de ce podcast, c'est « The Learning Scientist Podcast ». Donc c'est un podcast qui est enregistré par des chercheurs en psychologie cognitive et qui s'appuie sur des recherches scientifiques. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais et qui voudraient l'écouter plus tard. Donc je m'appuie sur ces deux ressources de grande qualité. Allez, c'est parti, on commence avec la première question. Qu'est-ce que la récupération en mémoire ? Alors, je vais utiliser une métaphore qui n'est pas très jolie, mais qui est très parlante. En fait, ce n'est pas bourrer le crâne des enfants d'informations, mais c'est plutôt faire sortir les informations. Je vais aussi vous dire la phrase en anglais, parce que je ne trouve pas de traduction parfaite ou fidèle, et je trouve que cette phrase est très parlante. « Retrieval practice is all about bringing information to mind ». Donc en français, c'est moins joli, moins clair, on dit « récupérer les informations en mémoire ». Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Donc, en fait, la récupération en mémoire, c'est recréer de mémoire quelque chose que vous avez appris dans le passé et en y pensant maintenant. Donc, en d'autres termes, c'est quelque temps après avoir appris quelque chose que vous avez lu dans un livre ou que vous avez entendu, vous devez vous le rappeler, vous le récupérer. Et le mot « après », il est très important parce qu'en fait, vous devez l'oublier au moins un petit peu, enfin, oublier un peu l'information pour que la récupération soit efficace. Voilà, vous ne devez pas vous contenter de réciter immédiatement ce que vous avez lu dans un livre ou ce que vous avez entendu, mais vous devez plutôt vous rappeler l'information par vous-même, une fois que ça devient un peu difficile de s'en souvenir, et voilà, quelques heures après, quelques jours après. Et donc, il y a eu, dans le podcast dont je vous parlais, elle parle, les deux personnes, enfin, ces deux chercheuses en psychologie cognitive, parlent d'une enquête qui montre que seulement 11% des étudiants américains, du coup, ont cité spontanément la récupération en mémoire comme stratégie qu'ils utilisent pour se préparer un test, un examen. Et sachant que ces étudiants sont des étudiants universitaires, donc ils devraient être quand même très doués pour étudier maintenant. Et voilà, ils devraient être des experts dans l'étude et dans l'apprentissage. Et ben, pourtant, ils sont que 11% à utiliser cette stratégie. Et ça, c'était aux États-Unis. Donc, je n'ose même pas imaginer le pourcentage en France. Mais il y a peut-être une raison qui explique cela, qui explique le fait que les enfants, les étudiants ne l'utilisent pas beaucoup. C'est que récupérer l'information en mémoire, c'est difficile. Ça demande vraiment un effort. Et il y a une stratégie qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, ça va être de relire. Relire une leçon, relire un cours. Le fait de relire, c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est moins fatigant. Et on a aussi, quand on relit plusieurs fois le même texte, on a cette impression de maîtrise. On se dit « Ah, mais oui, ça, je l'ai déjà lu, ah oui, je m'en rappelle ». Mais bon, en fait, le jour où on doit vraiment s'en rappeler, on se rend compte qu'on ne s'en rappelle pas tant que ça. Donc quand on prend une feuille blanche, quand on applique cette stratégie et qu'on prend une feuille blanche et qu'on essaie d'écrire tout ce dont on se rappelle, bah, c'est beaucoup plus coûteux en énergie. Et on peut aussi avoir l'impression de ne pas se rappeler de grand-chose. Donc on peut, voilà, si on ne se rappelle pas de grand-chose, bah, ça va être un petit peu désagréable. Donc voilà pourquoi surtout les étudiants, n'utilisent pas beaucoup cette stratégie, c'est parce qu'elle est plus coûteuse. Alors c'est sûr que relire, hein, si le contrôle il est dans 2 minutes, et ben forcément relire ça va être bénéfique. Mais dans la vie, en fait, déjà à l'école, au collège, souvent le contrôle va être plus éloigné, dans une semaine, dans un mois. Et le but, c'est pas juste de réussir ce contrôle, en fait, c'est de retenir l'information pour longtemps, pour pouvoir s'en resservir. Donc si on veut emmener ces informations dans notre mémoire à long terme, et pas juste s'en rappeler là tout de suite 2 minutes après, c'est vraiment une stratégie qui est efficace. Donc en anglais on dit use it or lose it. C'est comme quand on pratique quand on apprend une langue, quand on joue d'un instrument, plus on va s'entraîner aussi, et ben plus on va maîtriser cette compétence. Quand on récupère aussi en mémoire, la difficulté, ça sera une bonne chose en fait. Même si c'est difficile, ça sera une bonne chose pour l'apprentissage. Et ça peut aussi améliorer la compréhension que les élèves ont de leur propre processus d'apprentissage. On appelle ça la métacognition. Ah oui, en fait, je croyais avoir compris ça, mais en fait, non, je m'en rappelle pas si bien que ça. Là, ça nous apporte des informations précises et utiles. Donc voilà, c'est un exercice qui est vraiment très efficace pour faciliter l'apprentissage. Et d'ailleurs, il y a un nombre impressionnant d'études qui le démontrent, hein, qui démontrent l'efficacité de l'entraînement à la récupération en mémoire. Et c'est ce qui fait de ce principe l'un des plus solidement appuyés par la recherche. Il y a eu beaucoup, beaucoup de méta-analyses. Donc voilà, pour le redire autrement, on pourrait dire que l'entraînement à la récupération en mémoire, retrieval practice en anglais, ça consiste à récupérer en mémoire, c'est-à-dire à faire l'effort de se souvenir d'une connaissance à plusieurs reprises. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est, et on va passer à la deuxième question. Pourquoi faut-il entraîner la récupération en mémoire? Donc là, je vais citer les 3 raisons que Steve Masson a écrites dans son livre. Donc je le cite. Ce type d'exercice permet de mettre en application les principes neuroéducatifs d'activation neuronale et d'activation neuronale répétée de façon particulièrement efficace. Il provoque une plus grande activation de certaines régions cérébrales associé à une meilleure rétention de l'information, et enfin, il mène à une amélioration significative de l'apprentissage. L'entraînement à la récupération en mémoire peut en effet contribuer à l'activation des neurones liés à l'apprentissage visé. Donc ça, c'était le premier principe dont parlait Steve Masson dans son livre. Puisque récupérer en mémoire, c'est réactiver les neurones associés à un apprentissage. De plus, contrairement aux approches passives, comme écouter ou lire, la récupération en mémoire oblige l'apprenant à activer ses neurones. L'entraînement à la récupération en mémoire est également un outil particulièrement puissant pour favoriser l'activation répétée de neurones. Chaque récupération en mémoire est en fait une réactivation. Lors de l'entraînement à la récupération en mémoire, chaque fois qu'une connaissance est récupérée, les neurones s'activent. En conséquence, plus on récupère, plus on active de façon répétée les neurones et plus on consolide les connexions neuronales. Le cortex préfrontal, ventrolatéral et l'hippocampe sont deux régions cérébrales qui s'activent davantage lors de l'entraînement à la récupération mémoire que lors de l'étude, que si on est juste en train d'étudier. Donc pourquoi faut-il entraîner la récupération mémoire ? Bah, pour améliorer significativement l'apprentissage. Voilà. Donc plus on s'entraîne à récupérer en mémoire, et plus grandes sont les chances de s'en souvenir à plus long terme. Voilà, donc maintenant que vous savez ce que c'est et à quel point ça marche, j'imagine que vous avez envie de découvrir comment le mettre en pratique. Donc, comment mettre en application ce principe ? Alors, en tant qu'enseignant, nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette pratique dans nos cours, en classe. Et en tant que parent, on peut réfléchir à comment on va intégrer ce principe quand on aide nos enfants à faire leurs devoirs, par exemple. Voilà, il existe de nombreuses façons différentes de mettre en œuvre ce principe. Donc je vais toutes vous les citer déjà. La première, c'est faire fréquemment des tests. La deuxième, c'est répondre souvent à des questions. La troisième, c'est laisser du temps pour récupérer en mémoire. La quatrième, c'est donner des indices. La cinquième, c'est la feuille blanche. Et la sixième et septième, les cartes mentales et les cartes conceptuelles. Et la huitième, j'allais oublier, les flashcards. Donc je vais vous détailler très rapidement toutes ces façons de mettre en application ce principe. Donc la première, j'avais dit faire fréquemment des tests. Donc en fait, il ne faut pas croire que les tests sont seulement et surtout un outil pour évaluer, noter, classer ou sanctionner les élèves. En fait, on a besoin de changer de paradigme. Et ce serait bien qu'on perçoive maintenant les tests ou les examens comme faisant partie, comme faisant partie intégrante du processus d'apprentissage. Et non pas uniquement comme un outil qui va permettre de vérifier la réussite des apprentissages. Donc le feedback est essentiel évidemment, si on pose une question, il faut aussi apporter la bonne réponse ensuite, mais avec un retour sur erreur neutre et immédiat. Mais voilà, en fait tous ces tests ou répondre souvent à des questions, on peut voir ça plutôt comme des opportunités de récupération mémoire, mais sans enjeu. Donc ça peut être au début d'un cours, à la fin d'un cours, poser toujours trois questions. Mais ça va être une habitude en fait qui est là pour servir, pour aider les enfants à apprendre. Pas pour dans le but de sanctionner ou d'évaluer. Non. Il ne faut pas qu'il y ait d'anxiété associée à ça. C'est juste une occasion pour les élèves de rappeler des informations de leur mémoire. Et il y a d'ailleurs une étude qui a montré que la récupération en mémoire, elle peut réellement réduire l'anxiété liée au test. Mais tout dépend en fait dans quelles conditions c'est fait. Donc si les tests, les quiz, les tests font partie de l'expérience quotidienne normale de la classe, l'anxiété elle disparaît. Donc ça, je parlais en cours, mais pour les parents, cette stratégie, le fait de poser des questions, ça peut être utilisé par les parents pour l'apprentissage de la vie quotidienne. Par exemple, au lieu de dire à un enfant d'aller se laver, de brosser ses dents, de ranger ses vêtements, on peut lui demander ce qu'il doit faire pour la routine du soir. On lui pose la question. Et l'enfant doit alors récupérer en mémoire les éléments et le séquençage de ces éléments. Donc voilà, ce travail de récupération en mémoire, il pourra renforcer sa connaissance des tâches à effectuer avant d'aller se coucher. La troisième chose que j'ai citée, c'est de laisser du temps pour récupérer en mémoire. Donc là, je cite à nouveau Steve Masson. « Lorsque les réseaux de neurones associés à de nouvelles connaissances sont fragiles, il peut être difficile de les réactiver pour récupérer en mémoire l'information souhaitée. La procédure de récupération en mémoire peut alors prendre du temps. Un enseignant, un formateur ou un parent devrait donc toujours laisser du temps après avoir posé une question. Attendre une réponse sans rien dire et sans rien faire est parfois difficile, car le silence peut créer un malaise. Conscient ou inconscient, qui mène à parler ou à réagir de façon non verbale pour combler le vide. Il est donc tentant de donner tout de suite la réponse ou d'enchaîner immédiatement avec un commentaire ou une autre question. Il faut toutefois essayer de résister à cette tendance. Quand l'apprenant cherche dans sa tête une information, il est préférable de ne pas intervenir. Lorsque le processus de récupération en mémoire est difficile, il laisse une trace plus importante dans les réseaux de neurones. Donc voilà, ça c'est vraiment... Vraiment important, je trouve, à connaître. 1, 2, 3, 4, on en est à la quatrième. Alors, la quatrième, je vais passer vite, c'est donner des indices. Donc les indices récupérateurs, c'est quelque chose dont je parle dans le programme pour les enfants. Voilà, je ne vais pas détailler maintenant. Voilà, vous savez ce que c'est un indice, vous avez une petite idée de cette stratégie. Je vais plutôt vous parler de la feuille blanche. Alors, la feuille blanche, en fait, c'est tout simple. Quand on veut se rappeler de quelque chose, enfin, quand on a écouté un cours, quand on a écouté un podcast, ça marche pour les enfants et les adultes, on va prendre une feuille blanche et quelques heures, quelques jours après, et essayer de noter tout ce dont on se rappelle. Voilà. Donc ça peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'en ai parlé rapidement de la feuille blanche, ça peut être un petit peu inconfortable. Des fois, on peut être un peu déçu. Alors, ça demande un effort, déjà. Hein, ça demande un effort, c'est coûteux de rechercher dans sa mémoire toutes les informations sur ce sujet, et sur un sujet particulier. Et ça peut être un peu désagréable si on se dit « mince, j'arrive pas, je me rappelle pas de... Voilà, je me rappelle pas plus, j'ai écrit que ça. Voilà. » Alors, il faut réussir à dépasser cette émotion désagréable. Comme on sait que c'est une stratégie quand même qui est très efficace, voilà, ça vaut le coup de l'utiliser. Et évidemment, après, on ne s'arrête pas là. On reprend le podcast qu'on avait écouté, enfin, on réécoute le podcast, on reprend le support écrit, voilà, si c'était à l'écrit, pour comparer ce qu'on a écrit avec toutes les informations qu'on avait entendues ou lues. Donc voilà pour la feuille blanche. Ensuite, je voulais vous parler des cartes mentales et des cartes conceptuelles. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Une carte mentale, ça va être au centre, on va marquer le sujet au centre, et après il va y avoir des branches, comme un voilà, plein de branches avec plein d'idées, et toutes ces idées vont s'articuler autour du sujet. Ça peut être utile, voilà, ça peut être utile des fois pour remettre de l'ordre dans nos idées. Et la différence avec la carte conceptuelle, ça va plus loin. La carte conceptuelle, en fait, elle va permettre de créer du lien entre les idées. D'ailleurs, il y en avait une en anglais sur le site, hein, Learning Scientist. Je vous la mettrai dans les notes de l'épisode. Même si c'est en anglais, vous allez comprendre en fait que les idées sont reliées entre elles. Donc c'est un petit peu plus difficile à faire. Mais voilà. Le fait de demander à un enfant ou un adulte de créer une carte mentale ou une carte conceptuelle à partir de ce qu'ils savent, voilà, c'est vraiment une stratégie efficace. Et si en plus il crée cette carte, peu importe laquelle c'est, s'il la crée de mémoire, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas le support écrit ou le support audio, il n'écoute pas le support audio. Voilà, s'il la crée vraiment de mémoire, avec une feuille de papier devant eux, et qu'ils essaient de la produire eux-mêmes, donc là, vraiment, il va s'agir d'une activité de récupération. Et l'apprentissage en sera bien plus bénéfique que s'ils essayaient de créer une carte avec le support devant eux. Alors, ça peut être une première étape au début, hein, surtout pour des enfants. Mais si vous savez déjà faire une carte mentale ou une carte conceptuelle, l'idéal est de la créer à partir de rien, sans le support sous les yeux. Et comme d'habitude, après, vous pouvez comparer avec le support. La dernière stratégie dont je voulais vous parler, c'est les flashcards. Donc, peut-être que vous connaissez, c'est un petit peu plus connu que le reste. Donc, c'est une façon d'entraîner la récupération. Donc les flashcards, le principe, c'est d'écrire une question sur un côté d'une carte, d'une feuille, et la réponse de l'autre. Donc par exemple, moi je l'ai beaucoup fait avec les tables de multiplication, 7 x 8 d'un côté et de l'autre 56. Voilà, donc en fait, là prenons cet exemple des tables de multiplication, l'enfant va lire sur sa carte 7 x 8 et va chercher en fait la réponse avant de retourner. Et là, pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut lui laisser le temps de récupérer en mémoire. Si l'enfant retourne trop vite la carte et regarde la réponse sans avoir fait l'effort de chercher, bah ça marchera moins bien. Hein, voilà, il y a beaucoup d'élèves qui la retournent trop vite, cette carte. Ils vont se contenter de lire la réponse. Mais voilà, ça ne sera pas la même chose que de ramener l'information en mémoire, de récupérer l'information en mémoire. Voilà pour les flashcards. Donc là, je vous ai donné l'exemple des tables de multiplication, mais pour des plus grands, ça pourrait être juste une question ouverte, comme par exemple, explique le processus de la photosynthèse. Voilà. Et c'est important que la réponse soit au dos de la flashcard, parce qu'il faut faire attention de ne pas s'entraîner à récupérer en mémoire une information incorrecte, parce que ça aurait pour effet de consolider l'erreur. et forcément d'augmenter la probabilité de la commettre à nouveau. Donc il faut bien que la bonne réponse soit au dos. Donc si, voilà, si vous laissez votre enfant, votre collégien faire ses flashcards, vérifiez bien les réponses qu'il a mis au dos avant qu'il se teste avec ses flashcards. Alors maintenant, je vais vous donner deux exemples. Un exemple que j'ai vécu avec mes filles il y a quelques jours et un exemple que j'ai vécu hier en écoutant un podcast. Donc je vais commencer par l'exemple avec mes filles. J'avais remarqué que quand elles écrivent, quand le participe passé, là, par exemple, elles sont allées cueillir des fleurs, ben, aller, voilà, elles ne savaient pas trop comment l'écrire, ou elles ont chanté, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien que je leur réexplique cette règle. Donc, je leur ai dit, à chaque fois que vous entendez « et »,« i », »,« u », bu, visiter, regarder, pris, voilà. À chaque fois que vous entendez « et »,« i », »,« u » pour le verbe, il y a une méthode, en fait, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est le verbe « être » ou est-ce que c'est le verbe « avoir ». Voilà. Par exemple, « les filles sont énervées ». Et donc là, je leur avais dit « énervé », on entend « et », on le souligne, et puis avant de... voilà, on va se poser les bonnes questions avant pour savoir si on rajoute un petit « e » ou pas, si on rajoute un « s » ou pas. Alors, les filles sont énervées ou étaient énervées. Est-ce que c'est le verbe « être » ou est-ce que c'est le verbe « avoir » ? Donc, elles me disent « voilà, c'est le verbe « être ». Et donc, quand c'est « être », on accorde. Voilà, on accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les filles, c'est féminin et c'est au pluriel, donc on va énerver et « es ». Et après, j'avais donné un autre exemple. Nous avons visité une forteresse. Alors, visiter, on entend « et », on se pose la question. Est-ce que c'est « être » ou est-ce que c'est « avoir » ? Et là, dans ce cas de figure, bah, c'est « avoir ». Donc là, quand c'est l'auxiliaire « avoir », deux possibilités. Il faut qu'on cherche le COD pour savoir s'il est avant le verbe ou après le verbe. Donc, nous avons visité une forteresse. Nous avons visité quoi ? Une forteresse. Le COD, il est après. Donc, on s'en va, on n'accorde pas. Mais si ça avait été la forteresse que nous avons visitée ? Dans cet exemple, nous avons visité quoi ? La forteresse. Le COD est avant. Donc là, il faut accorder avec le COD. Forteresse, c'est une forteresse, c'est féminin. On rajoute un petit E à visiter. Donc voilà, vous voyez, cette règle, elle est quand même pas simple pour des enfants. Et ce que je voulais, en fait, c'était qu'elles la comprennent. Et j'ai utilisé la récupération en mémoire avec cette règle. Donc la première fois, voilà, je leur ai expliqué la règle. On a utilisé des exemples. Et le lendemain, je leur ai dit, vous savez, est-ce que vous pourriez me réexpliquer la règle que je vous ai apprise, dont on a parlé hier ? Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'une seule fois, c'était vraiment pas suffisant. Et qu'elles avaient oublié plein d'informations. Donc, je leur ai quand même laissé le temps pour voir si elles arrivaient à récupérer en mémoire la règle. Mais elles ont eu besoin que je leur apporte des indices pour le dire, parce que c'était vraiment compliqué. Et un autre exemple, alors là je m'éloigne un peu du retrieval practice ou de la récupération en mémoire, mais c'était très intéressant pour les enseignants qui nous écoutent. Je leur ai proposé de créer leur propre phrase, en fait. Je leur ai dit, ben, comme j'ai deux filles, je leur ai dit, vous écrivez trois phrases pour, voilà, t'écris trois phrases pour ta sœur et toi aussi. Et en fait, là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, elles n'avaient pas forcément compris que le « e », « i », « u », c'était pour le verbe. Ou alors, elles avaient... Enfin, je ne sais plus ce qu'elles avaient écrit comme phrase, mais ça me montrait vraiment qu'elles n'avaient pas encore compris cette règle. Donc, vous voyez à quel point le fait de leur demander de récupérer en mémoire l'information a été utile, en fait. Parce que je me suis dit, mais ça demande du temps et ce n'était pas suffisant. Par contre, on l'a refait deux fois, trois fois, là, depuis... une dizaine de jours, et là ça y est, ma fille aînée, elle est capable, en fait, de m'expliquer la règle. Alors maintenant, il reste plus qu'à l'appliquer quand elle va écrire, mais ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, elle a compris la règle, elle est capable de l'expliquer. Et je voulais aussi vous donner un exemple, pour moi, cette fois-ci, en tant qu'adulte, avec le dernier podcast que j'ai écouté. J'écoute beaucoup les podcasts de Rangan Chatterjee, Feel Better, Live More, quelque chose comme ça. Et là, le dernier que j'ai écouté, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Son invité partageait vraiment des choses. Voilà, je me suis dit, non mais ça, j'ai envie de m'en rappeler, j'ai envie que ça peut avoir un impact dans ma vie. Et donc, du coup, je sais très bien que si je n'utilise pas cette stratégie, la récupération en mémoire, dans les jours et les semaines qui arrivent, tout ce contenu-là que j'aimerais mémoriser parce qu'il était vraiment pertinent, il va disparaître. Ça, c'est sûr. Voilà. Si j'écoute juste une fois le podcast et que je ne fais rien derrière, que je ne fais pas l'effort de récupérer en mémoire toutes les infos qui m'ont intéressée, ça va disparaître. Donc du coup, ce que j'ai fait déjà dans un premier temps, c'est qu'hier soir, avant de m'endormir, j'ai fait l'effort en fait de me rappeler tout ce dont j'avais entendu, enfin en tout cas le maximum, toutes les choses qui m'avaient marqué et dont je voulais me rappeler. Donc j'ai juste fait comme ça dans ma tête avant de dormir. Et à midi, j'ai raconté à mon mari en fait tout ce que j'avais entendu dans ce podcast. Et donc là, je voyais, oh, il y a des choses que j'ai oubliées, mince, je ne me rappelle pas de tout. Et la troisième étape, ça va être dans quelques jours, bah justement, de prendre une feuille blanche et d'essayer de marquer le maximum d'informations. Donc je sais que je ne vais pas réussir à toutes les noter, mais après, je vais réécouter le podcast et me dire, ah mais oui, c'est ça que j'ai oublié et je vais le rajouter. Donc je trouve qu'en tant qu'adulte, enfin moi j'ai fait cette erreur pendant longtemps, quand je lisais un livre ou quand j'écoutais un podcast, bah je l'écoutais, puis je passais à autre chose, quoi, je passais au suivant. Et en fait, je pense que j'ai oublié beaucoup, beaucoup d'informations parce que je ne savais pas apprendre. Et quand je lis un livre et que le livre est vraiment pertinent et intéressant, et ben maintenant, je fais ça à chaque fois. Et pareil pour les podcasts que j'écoute. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps, mais au moins, je suis capable de m'en rappeler. Voilà, donc ça me fait une belle transition avec le dernier point dont je vous avais parlé, je vous avais dit que j'allais vous faire appliquer ce principe. Donc voilà, maintenant que vous avez compris ce qu'est la récupération en mémoire, je vais vous inviter à le mettre en application tout de suite, dans la foulée, là, avec tout ce que vous venez d'apprendre dans cet épisode. Alors, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, vous pouvez différer ça de quelques heures, voire de quelques jours, mais j'aimerais que vous testiez la technique de la feuille blanche. Donc voilà, en plus là vu que c'est un support audio, on risque moins de tricher entre guillemets en regardant avec un livre, vous voyez on a le texte sous les yeux, c'est plus tentant. Mais là, il n'y a pas de risque vu que c'était un audio. Donc je vous invite à tester cette technique, à noter tout ce dont vous vous rappelez, comme vous voulez, soit sous forme de notes, juste voilà, des phrases, des mots, des petits dessins, des petits pictos, comme vous voulez. Ou sous forme de carte mentale si vous êtes capable de faire une carte mentale dès maintenant. Ou une carte conceptuelle, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, peu importe quelle forme cela va prendre, je vous invite vraiment à tester cette technique. Et à partir de maintenant, pour chaque épisode, en fait, à chaque fois que j'interviewe un invité, je vais vous proposer en fait de faire la même chose. Alors, pas forcément toutes les informations, parce que toutes les informations, vous n'avez pas forcément envie de retenir toutes les informations, mais je vais vous proposer le 3-2-1. Donc c'est Julia Volkman, que j'ai déjà interviewée, qui propose ça dans ses conférences ou à la fin de ses vidéos. Donc vous pouvez noter trois choses dont vous aimeriez vous rappeler, deux choses que vous aimeriez mettre en application et une chose que vous aimeriez creuser. Alors, si vous voulez inverser le 3-2-1 et que ça fasse 1-2-3, 1-2-3, 1-3-2, peu importe. Mais voilà, le principe, c'est donc vous allez justement entraîner votre récupération en mémoire en notant trois choses dont vous aimeriez vous rappeler. Voilà. Après, les deux choses que vous aimeriez mettre en application et une chose que vous aimeriez creuser, on sort un peu de cette stratégie, mais je trouve ça vraiment intéressant pour passer à l'action. Et ce que je vais vous proposer à chaque fois, pour chaque épisode écouté, c'est de l'écrire directement sur l'ordinateur. Et de conserver vos notes au même endroit. Comme ça, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourrez les retrouver sans vous poser de questions. Mince, j'avais entendu parler de ce sujet dans ce podcast. Où est-ce que... Je sais, je me rappelle l'avoir noté, mais où ? Bon là, pas de questions à se poser. Vous décidez dès maintenant à quel endroit vous les stockez. Et comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Et pourquoi je vous invite à le faire, à écrire directement sur l'ordi ? C'est que vous pourrez les partager dans les commentaires pour qu'on puisse, pour qu'on puisse voir vos notes si vous avez envie de les partager. Alors, dernière petite chose avant de terminer cet épisode, je voulais vous dire comment j'utilise la récupération en mémoire dans ma formation Impact et dans mon programme Apprendre à apprendre. Donc, dans la formation Impact, immersion Montessori pour les adultes et les classes transformées, ce que j'ai fait, c'est que pour faciliter l'apprentissage des apprenants, j'utilise de nombreuses questions ouvertes. Donc, j'ai pas d'exemple en tête, mais je vous pose une question et du coup, vous devez récupérer en mémoire l'information ou en tout cas essayer de trouver la réponse à l'oral, hein, pas forcément à l'écrit, de l'expliquer. Et après, vous avez un feedback, vous pouvez regarder la réponse, enfin ce que moi j'ai noté. Voilà, donc ça c'est un principe que j'utilise beaucoup et que je vous invite à utiliser beaucoup dans cette formation pour faciliter votre apprentissage. Et c'est aussi un principe dont je parle évidemment dans le programme pour les enfants de primaire et dans le programme des collégiens. Donc quand je dis j'en parle, je ne fais pas juste en parler, je leur fais vivre en fait. Donc voilà, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, hein. Voilà, j'ai deux passions, on peut pas trop... J'allais dire Montessori d'un côté et la neuroéducation de l'autre, mais en fait c'est un peu dommage de les opposer parce qu'il y a tellement de liens. Mais voilà, vous savez que mon travail c'est de former les enseignants à la pédagogie Montessori et je forme aussi les enfants de primaire et les collégiens pour apprendre à apprendre. Et vous avez remarqué, hein, j'ai dit les enfants, pas les enseignants. Voilà, c'est... Voilà, d'ailleurs, dans la formation, j'ai dit apprendre à apprendre, mais le titre exact de la formation, c'est permettre la réussite des élèves pour maintenir leur motivation à apprendre. Voilà. Et pour faire plus court, des fois, je dis la formation apprendre à apprendre, ça va plus vite. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Virginie, une enseignante de maternelle qui se forme avec moi en ce moment, et que j'ai interviewé la semaine dernière d'ailleurs. Elle m'a parlé de Kokoro Lingua, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les parents et les enseignants qui ne se sentent pas, enfin, ça c'est une hypothèse, mais pour moi qui ne se sentent pas très à l'aise en anglais et qui veulent du coup utiliser une méthode clé en main pour enseigner l'anglais à leurs enfants ou à leurs élèves. Et du coup, ils utilisent des vidéos, les vidéos de ce programme, elles sont directement pour les enfants. Et en fait, quand elle m'a parlé de Kokoro Lingua, du coup, je suis allée voir et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai fait avec le programme Apprendre à apprendre pour les enfants de primaire. Parce que, en fait, quand j'ai fait les vidéos, je les ai faites où je m'adresse directement aux enfants. Bon, j'ai fait la petite bêtise des fois de dire avec ton parent, alors que, je sais pas, c'est dommage parce que j'aurais dû dire avec l'adulte qui t'accompagne, comme ça aurait pu être ton parent, ton enseignant, peu importe. Mais en tout cas, voilà, dans ces vidéos, je m'adresse vraiment aux enfants. Et que vous soyez parent ou enseignant, eh ben, ça peut vraiment aider les enfants, ou vos enfants ou vos élèves du CE1 au CM2. Parce que je dis pas CP parce qu'il faut quand même, c'est pour des enfants lecteurs. Et comme dans ce programme, la Kokoro Lingua, en fait, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, de maîtriser toutes ces connaissances, parce que là, la récupération en mémoire, c'est peut-être un dixième, un quinzième, peut-être même un vingtième de tout ce que je transmets aux enfants dans le programme. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour leur transmettre toutes ces connaissances et toutes ces stratégies. Du coup, vous pouvez juste profiter du programme que j'ai construit en regardant les vidéos avec eux. Ils auront leur petit livret aussi à compléter et vous pouvez apprendre à leur côté. Donc voilà, si vous êtes parent de collégiens, le programme diffère un peu évidemment et je redémarre un nouveau groupe mi-septembre. Voilà. Alors que pour les enfants et les élèves de primaire, en fait, vous pouvez démarrer quand vous voulez puisque c'est pas les vidéos sont déjà enregistrées. Donc si vous avez des ados, des collégiens à la maison, vous pouvez leur en parler. Et d'ailleurs, vous pouvez leur faire lire un document que je partage gratuitement sur mon blog, Le cerveau des ados est littéralement génial. Donc voilà, vous pouvez le télécharger et ça leur fera un petit aperçu de ce que je propose. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces infos pour les primaires et les collégiens sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com. Et juste avant de vous quitter, n'oubliez pas, même si c'est pas là tout de suite et c'est que dans quelques heures, voilà, n'oubliez pas de jouer le jeu et de mettre en application cette stratégie, c'est de la récupération en mémoire, et si possible de nous la partager. Comme ça, on verra dans les. Voilà, si vous la partagez, du coup on pourra lire ce que vous avez écrit et ça sera chouette. Je vous dis à la semaine prochaine.